Radio Kapi. Oh, Kapi.
Alors que les discours se multiplient à l'occasion de la commémoration du génocide, le docteur Denis Mukwege sort de son silence en appelant les acteurs à être pragmatiques dans la préservation de la mémoire des disparus. En Ituri, les personnels soignants engagés dans la riposte contre Ebola au centre de traitement de Mungwalu a manifesté ce lundi. Ils réclament 3 mois de salaire impayé à verser dans le 24 heures, faute de quoi le ton sera durci. Face à la recrudescence des attaques des ADF à Beni et à Lubero au Nord Kivu ainsi qu'à Ituri, une question demeure, que fait la brigade d'intervention de la MONUSCO censée protéger les civils dans ces zones? Le général Alexander Edouard Massangoura, commandant de cette brigade, apportera des réponses car il est notre invité. À l'occasion de la journée nationale du génocide pour des gains économiques, le génocide est célébré le 2 août de chaque année. Le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, appelle à transformer les devoirs de mémoire en actes. Dans une déclaration publiée samedi, il réclame justice pour les millions de victimes des conflits en République démocratique du Congo et appelle à la cessation des agressions contre les pays. Les détails avec Papi Martial Mukeba.
28 ans après les débuts de la Deuxième Guerre du Congo, Denis Mukwege estime que la reconnaissance du 2 août comme journée nationale du génocide ne prendra tout son sens que si elle s'accompagne des justices, des vérités et des réparations pour les victimes. Le prix Nobel de la paix 2018 affirme que les massacres, les violences sexuelles, les déplacements forcés et les pillages des ressources naturelles se poursuivent dans un climat d'impunité. Il cite notamment les tueries commises par les ADF dans les territoires de Beni et de Mambasa. Denis Mukwege appelle également à la cessation des agressions contre la RDC, à la fin du pillage de ses ressources stratégiques et au respect de la souveraineté du pays. Il renouvelle en fait son plaidoyer en faveur d'un tribunal pénal spécial pour la RDC et conclut en appelant à transformer, je cite, les minéraux des conflits en minéraux de paix, l'impunité en justice et la souffrance en espérance. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Rendons-nous à présent au site Kivu pour parler toujours des génocides. La journée du 2 août 2026 y a été marquée par un hommage solennel rendu aux millions de Congolais victimes des conflits armés qui hantaient les pays depuis plusieurs décennies. C'était au cours d'une cérémonie tenue dans la commune de Mulongwe à Uvira en présence des autorités politiques, militaires et des acteurs de la société civile. Le point avec André Katendenga Lamulume.
Présidant la cérémonie au nom du gouverneur des provinces Jean-Jacques Purusi-Sadiki, le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano a rendu un hommage aux millions de Congolais tués dans les conflits qui endeuillent l'est de la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies. Bougie à la main, les participants ont observé un moment de recueillement en mémoire des victimes. L'un des temps forts de cette commémoration a été les témoignages des survivants des récentes occupations de la ville d'Ouvira par la coalition RDF AFC M23. Devant une assistance émue, plusieurs victimes ont relaté les exactions subies, évoquant notamment des exécutions des civils, des disparitions et d'autres graves violations des droits humains. Elles ont appelé les autorités à faire toute la lumière sur ces crimes, à garantir justice aux victimes, à réparer les préjudices subis et à accélérer les retours d'une paix durable dans la province. Dans son allocution, le gouverneur intérimaire a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial en faveur de la vérité, de la justice, de la réparation et de la non-répétition des atrocités.
Nous poursuivons avec cette édition où il est 13h passées des 4 minutes du côté d'Uvira. De l'est à l'ouest, nous allons poser nos valises au Congo central, qui est une province également qui s'est associée à la commémoration de la journée nationale du génocide pour des gains économiques, les génocides. À Matadi, autorités et citoyens se sont rassemblés devant le gouvernorat pour rendre hommage aux victimes des conflits qui ont marqué la RDC. À travers cette cérémonie, ils ont réaffirmé l'importance du devoir des mémoires de la paix et de la justice. Élise Kavira pour plus de détails.
Si le génocoste invite à se souvenir des tragédies du passé, il rappelle aussi l'urgence de mettre fin à celles qui continuent de frapper le Congolais aujourd'hui. C'est le message porté par cette jeune matadienne, Merciana Timba.
Demandons vraiment à nos autorités de nous aider à restaurer la paix, parce que nous sommes fatigués d'entendre parler de tueries et des violences de tout genre.
Nous avons besoin de la paix.
Après la cérémonie officielle, des jeunes issus de plusieurs structures citoyennes s'y sont retrouvés au rond-point gouvernorat pour réfléchir à leur rôle dans la construction de la paix. Parmi eux, Alvin Lutandila, membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement.
En tant que jeune ou ambassadeur, le message clair a été d'abord de conscientiser la jeunesse, de leur dire c'est à nous de dénoncer ce massacre qui est en train de passer dans notre pays.
Pour le gouverneur de province, cette journée est avant tout un moment de mémoire et de solidarité avec les victimes.
Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire de toutes les victimes des atrocités qui ont endeuillé notre pays.
Le chef de l'exécutif provincial a rappelé que la réparation des victimes reste indissociable de la sanction des auteurs des crimes. Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi.
Des tueries, on en parle encore et encore. Au moins 5 personnes ont été tuées, une autre est blessée et 2 restent portées disparues au cours des 6 derniers jours dans le nord de la chefferie des Bouitour en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon des sources locales, ces cas sont liés à plusieurs incidents sécuritaires, notamment des incursions d'hommes armés et des embuscades contre des civils. Les détails avec Askan Zigbia Tayoro.
Le dernier incident remonte à dimanche soir à Kibirizi dans le groupement Mutanda. Des hommes armés non identifiés ont blessé par balle un civil à son domicile avant de prendre la fuite. La victime est soignée dans une structure sanitaire locale. La veille, 2 personnes ont été enlevées dans leur champ aux environs du village de Kilambo dans le groupement voisin de Kanyabayonga. Jusqu'à présent, leur famille reste sans nouvelles. Ces incidents surviennent quelques jours après le meurtre de 5 personnes le 28 juillet dans la même zone. Parmi les victimes figure Justin Kaiti, chef du village de Kirimon récemment nommé par la FCM23, son conducteur de moto et 2 gardes du corps tués dans une embuscade à Kasesero. Le même jour, un notable du quartier Kinyanchi a également été abattu. Selon des sources locales, certains de ces actes seraient attribués à des éléments du M23, tandis que d'autres seraient liés à des représailles menées par des présumés combattants Wazalendo. Cette situation alimente une inquiétude croissante au sein de la population de Kibirizi et ses environs.
Nous partons à Lubumbashi. Retour au calme dans la localité de Kyubomamba, en territoire de Mitwaba. Nous sommes dans le Haut-Katanga après une attaque armée survenue dimanche. Celle-ci est attribuée aux miliciens Maïmaï contre un cantonnement des militaires de FRDC. D'après des sources locales, les bilans provisoires des affrontements qui ont duré quelques heures fait état de 8 morts et de plusieurs blessés. Notons également que parmi les victimes, certaines ont péri brûlées dans un incendie. Les détails avec Paulin Munanga.
Les miliciens Mai Mai ont ouvert le feu avant d'incendier les habitations dans les cantonnements militaires de la localité de Kyubomamba, rapporte des sources locales. Parmi les victimes figurent 2 militaires de FRDC et 6 civils, dont une épouse d'un militaire et 5 enfants qui ont péri dans les flammes. Il y a une dizaine de blessés. Des renforts de militaires ont été immédiatement dépêchés depuis Mitwaba Centre, qui est situé à une centaine de kilomètres de la localité de Kyubo, pour sécuriser la zone et traquer les assaillants qui se sont retirés après avoir leur forfait. Aucune réaction pour le moment des autorités de la province. Des incidents similaires ont été signalés au mois de mars de cette année. Une incursion armée de la station Lusinga, quartier général du parc national de Lupemba dans le territoire de Mitwaba, perpétrée par un groupe d'assaillants non identifiés. Cette attaque armée avait fait des morts, des blessés, plusieurs infrastructures du parc avaient été détruites et les dépôts d'armes à feu et des munitions pillées. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Parlons justice à présent avec ces jolis coups de filet des services de sécurité de Brazzaville. Le ministre de la Justice de la RDC, Guillaume Ngefa, a annoncé dimanche l'interpellation à Brazzaville de Mukena Mwepu Beni. Cet homme est recherché dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Vali Amissi, vice-président du club Nouvelle Vie Bomoko FC et entrepreneur congolais établi en Afrique du Sud. Son corps avait été découvert le 10 avril dernier dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa, le ministre salue une avancée importante dans ces dossiers qu'il attribue à la coopération judiciaire entre la RDC et la République du Congo. Selon lui, les transferts du suspect vers Kinshasa est en cours dans le respect de la présomption d'innocence. Retour sur cette affaire avec Alain Hirung.
Au fil des investigations, les enquêteurs ont abandonné la thèse initiale d'un enlèvement perpétré par une bande armée. Des images de vidéosurveillance ont notamment permis d'identifier un proche de la victime parmi les personnes aperçues à ses côtés peu avant sa mort. Ces images montraient la victime entrant dans une chambre en compagnie d'un individu. Ce dernier a été aperçu ressortant seul de la pièce après avoir changé de vêtements et tenté de dissimuler une caméra de surveillance. Une autre séquence montrer le suspect manifestant une hésitation dans un ascenseur à proximité de ce qui semblait être le corps de la victime. La dépouille d'Amissi Issavali a finalement été retrouvée quelques heures plus tard, le 10 avril 2026, abandonnée derrière un établissement hôtelier dans le secteur du Beach Ngobila. Par ailleurs, une autre vidéo présentée comme celle de l'interrogatoire du suspect circule également largement sur les réseaux sociaux. On y voit un homme qui déclare avoir reçu une arme dont il ne connaît pas la marque. Quant à l'identité des commanditaires, il a tout simplement répondu qu'il s'agissait des personnalités haut placées.
Nous partons à Bounia. Le calme est revenu ce lundi à l'hôpital général de référence de Mongwalou dans les territoires de Djougou après des échauffourées liées à une manifestation du personnel engagé dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Les manifestants réclamaient les paiements des 3 mois d'arriérés des salaires. Martial Kizabiamungu nous en dit plus depuis Bounia.
Selon plusieurs sources locales, des infirmiers, hygiénistes et autres agents de santé affectés à la riposte Ebola ont investi tôt ce lundi matin l'entrée principale de l'hôpital. Ils dénoncent le non-paiement de leur rémunération des mois de mai, juin et juillet. Au cours de leur mouvement de protestation, les manifestants ont brûlé des pneus et exhibé des calicots sur lesquels on pouvait lire « Nous exigeons le paiement de nos salaires des mois de mai, juin et juillet ». Pour contenir la manifestation et prévenir d'éventuels débordements, la police a fait usage des gaz lacrymogènes et procédé à quelques tirs de sommation. Réagissant à ces incidents, le député provincial élu de Mongwalou, Jean-Pierre Bikili Sende, appelle les responsables de la riposte à prendre en considération les sacrifices consentis par ces agents de santé.
Je demande à la coordination de riposte d'être en communication permanente avec les agents de la riposte. Ces gens-là sont en train de rendre un service très louable à la communauté.
À l'heure qu'il est, aucune réaction officielle des responsables de la riposte Ebola n'a encore été enregistrée. Pour rappel, Mongwalou demeure l'un des principaux foyers de la 17e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans la province d'Ikwilu, les chefs coutumiers du Grand Bandundu sont appelés à jouer un rôle actif dans la mise en œuvre d'un ambitieux projet de développement agro-industriel. Réunis dimanche à Bandunduville, ils ont été sensibilisés autour des enjeux du projet combiné agro-industriel de Bouzala, financé par les Centres interafricains de développement, les CIAD. Objectif, renforcer leur adhésion et leur implication dans cette initiative destinée à stimuler la production agricole et le développement économique de la région. Reportage de Jean-Claude Tangamou de la radio-télévision Bandundu Développement rendu par Esther Dalafina.
Cette rencontre était consacrée à la présentation du projet combiné agro-industriel de Bouzala, une initiative portée par son directeur Emmanuel Koutoula avec l'appui du révérend père Adrien Gess du centre Tobwa. Emmanuel Koutoula est venu expliquer aux autorités coutumières les objectifs et les retombées attendues de ce projet. Il revient sur le sens de sa mission.
Ensemble, nos architectes, nos ingénieurs, les Chinois, ils vont faire donc ce plan général d'implantation et le faire par satellite pour que ce soit bien clair. À la fin de cette étude, ils vont nous faire une maquette.
Selon ses initiateurs, ce projet pourrait générer plus de 10 000 emplois directs et indirects dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, la construction navale, la transformation agroalimentaire, la logistique et les services. Les chefs coutumiers présents à cette rencontre ont salué l'initiative. Ils ont réaffirmé leur disponibilité à accompagner tout projet susceptible de favoriser le développement économique et social de leur communauté, tout en veillant au respect des intérêts des populations locales.
Actualité internationale. Le Maroc a annoncé un premier bilan officiel de 11 morts après les tentatives massives de passage vers l'enclave espagnole de Ceuta la semaine dernière. Ce chiffre est nettement inférieur à celui avancé par les autorités espagnoles qui font état d'au moins 70 décès. Selon le ministère marocain de l'Intérieur, 10 personnes se sont noyées et une autre est décédée après une chute dans une zone rocheuse. De son côté, l'Association marocaine des droits de l'homme estime que les bilans est près de 130 morts et fait même état des dizaines de personnes toujours portées disparues.
L'invité.
Les attaques attribuées aux rebelles des ADF se multiplient ces dernières semaines dans les territoires des Beni et des Lubero au nord Kivu, ainsi qu'à Nitouri. Face à cette recrudescence de l'insécurité, comment la brigade d'intervention de la MONUSCO ajuste-t-elle son dispositif pour mieux protéger les populations civiles? Élément de réponse avec le général Alexander Edouard Massangoura, commandant de cette brigade. Il s'entretient avec Martial Papi Moukeba.
Général Alexander Edouard Massangoura, bonjour.
Bonjour.
On observe une recrudescence des attaques attribuées aux ADF dans les territoires de Beni, Lubero et Anituri. Comment la brigade d'intervention de la MONUSCO adapte-t-elle son dispositif afin de mieux protéger les populations civiles face à cette évolution de la menace?
Étant donné la recrudescence des attaques des groupes armés à Beni, Lubero et Nituri, la brigade d'intervention de la MONUSCO s'adapte en renforçant sa posture opérationnelle de manière proactive et mobile. Il renforce les opérations conjointes avec les FRDC, surtout avec la réduction des effectifs. Ils utilisent la présence par la projection. Ils utilisent également des patrouilles longue distance, une présence avec des bases temporaires et des bases mobiles opérationnelles. Également, ils utilisent beaucoup de systèmes de renseignement et d'alerte précoce pour intervenir avant que la menace nous fasse des dégâts dans toute la zone de responsabilité de la FIB. La FIB également accorde une priorité aux zones à haut risque dans lesquelles il intervient le plus rapidement possible pour protéger les vies. Et donc, avec cette posture opérationnelle, la FIB est en mesure de réagir dans les plus brefs délais pour pousser son mandat qui est la protection des civils.
La protection des civils repose souvent sur une coordination entre la MONUSCO, les FRDC, les autorités locales et les communautés. Comment cette coordination fonctionne-t-elle actuellement et quels résultats concrets permettent-elles d'obtenir sur le terrain?
La protection des civils est une responsabilité partagée. La coordination fonctionne à travers la planification et la conduite d'opérations conjointes avec les FRDC au niveau tactique et au niveau opérationnel, telles que les opérations comme Umojiwa et Nyundotu. Des réunions régulières sont conduites en coordination avec les civils et les militaires, avec les administrations territoriales locales, les chefs locaux et la société de manière générale. L'assistance aussi des agents de liaison sont également utilisées pour faciliter la communication entre les différents acteurs. Les résultats concrets sur le terrain sont donc la dissuasion des groupes armés, le soutien des FRDC, les Forces démocratiques de la République démocratique du Congo, pour la sécurisation des zones menacées. Et ceci, ça peut se voir à Sayo, à Mambasa, avec le déploiement des troupes de la FIB. Ce partenariat permet donc une réponse rapide pour prévenir les attaques contre les populations. The vast area of responsibility that we
have here in Beni. Au-delà des interventions militaires, quelles sont les principales mesures préventives mises en œuvre par la brigade d'intervention pour réduire les risques auxquels les populations sont exposées, notamment dans les zones les plus vulnérables?
While our primary mandate is protection of civilians,
bien que notre mandat principal soit la protection des civils, la FIB soutient également la stabilité par la coopération civilo-militaire et des mesures de prévention. Des exemples d'activités civilo-militaires sont les projets à impact rapide qui permettent aux populations d'être secourues et soutenues par la FIB. Ensuite, des activités d'engagement communautaire sont menées régulièrement. La FIB soutient également les FIB FARDC et la police nationale à travers des formations. Toutes ces activités visent à restaurer la confiance et à créer des conditions où les civils peuvent vivre avec plus de dignité et de sécurité. La prévention est fondamentale. Elle est au cœur de notre travail. Les principales mesures sont donc des patrouilles préventives. Nous sommes présents de façon proactive dans toutes les zones à risque.
Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants des zones affectées concernant les rôles de la brigade d'intervention et la manière dont les communautés peuvent contribuer aux efforts de protection des civils?
La brigade d'intervention de la force de la MONUSCO est là pour protéger les populations civiles. Nous ne pouvons pas faire ça tout seul. Les communautés sont notre meilleur partenaire. J'encourage tout le monde à partager en temps réel toutes les informations sur les menaces pour permettre une réaction rapide de la MONUSCO et des FARDC. Éviter toute collaboration avec les groupes armés et rejeter la violence.
Reject all the forms of violence that can be posed by the illegal armed groups.
Général Alexander Edouard Massangoura, merci.
Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, nous disons également merci à vous d'avoir suivi cette édition du journal coordonnée par Alain Irung. Présentation René Linti Bonera Idi Amin dans une mise en onde d'Alain Goy.